Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui encore une fois nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gogo!
Est-il encore bien nécessaire de dire qu'il...
Oui,
je te tiendrai...
ouais. Oui. Okay. Tu prends les gens par la main, par les oreilles, par tout ce que tu veux.
Oui, mais c'est toujours moi! Donc peut-être qu'il faudrait trouver un autre truc que pour une fois de plus.
L'autre Librius.
Ouais, je sais pas. J'aimerais bien me sentir plus permanent, si tu veux.
Écoute, je vais y réfléchir pour la prochaine.
Parce que là, j'ai l'impression d'être un chroniqueur sur une sellette, tu vois. Je sais pas. Ah, il nous reprend par la main cette fois-ci.
Il continue comme ça.
Voilà, à chaque fois, je me fais...
Tu vas voir.
J'ai pas préparé l'émission pour rien.
Aujourd'hui, on a décidé de vous parler un petit peu de la Motown, comme à peu près une fois par an, je pense. Alors, pour mes mots, Motown, c'est un label américain, principalement de musique soul, établi à Détroit, la fameuse Motor Town, label créé en 59. Mais c'est bien dans les années 60 que le label connaît un succès fulgurant avec ses artistes, tels que les Jackson 5, Stevie Wonder, Marvin Gaye, les Temptations. Mais, et les femmes dans tout ça, me direz-vous? Elles seraient pas douées pour la soul? Détrompez-vous, les amis, car le groupe dont nous allons vous parler aujourd'hui est le groupe féminin ayant vendu le plus de disques au monde. Alors, derrière les Spice Girls, je vous l'accorde.
C'est pas possible.
Si.
Oh, ça fait mal, ça.
Mais c'est quand même pas rien, Gauthier.
Et je crois qu'elles ont vendu le plus d'albums de la Motown aussi, je crois, non, les Supremes.
Bah, si elles ont vendu... Ah, de la Motown,
ouais, ouais, je crois, aussi.
Tout genre confondu, c'est ouais. Possible. J'ai pas trouvé, j'ai pas chopé l'info.
Par
donc...
contre, dépassé par les Spice Girls, ça fait vraiment mal.
Eh hein. Oui, mais qu'est-ce que tu veux.
Le monde moderne est moche, Théo.
Ce groupe a également permis à l'un de ses membres, l'une de ses membres même, Diana Ross, de faire une carrière solo assez spectaculaire. Vous l'avez, ben oui, c'est bien des Supremes dont nous allons vous parler aujourd'hui, et plus particulièrement de leur deuxième album, Where Did Our Love Go, sorti en 64. Alors deux raisons pour lesquelles nous évoquons cet album aujourd'hui. La première, les plus matheux d'entre vous l'auront deviné, c'est que nous fêtons les 60 ans de cet album. Et la seconde, eh bien, c'est que ce disque contient les trois premiers singles numéro 1 des charts des Supremes. Et je vous propose d'ailleurs de rentrer dans le bain directement en s'écoutant l'un d'eux, celui qui donne son titre à l'album, Where Did Our Love Go?
You came into my heart. Baby, baby.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du second album des Supremes. Et mon cher Gauthier, je te propose de commencer par nous présenter les jeunes filles qui composent ce talentueux trio.
Eh bien, tout commence en 1958, lorsqu'une certaine Florence Ballard rencontre Paul Williams et Eddie Kendricks, qui étaient tous deux membres d'un petit groupe de chant à Détroit qui s'appelait les Primes. Alors, vu que la meuf de Paul Williams de l'époque, une dénommée Betty McGlaughan, chante également, on décide de créer, dans un souci d'originalité, les Primettes, qui chanteront donc à côté des Primes. Donc, tu as les deux mecs. Paul Williams et Eddie Kendrick qui chantent dans les Primes et l'une des copines plus Florence Ballard qui chante dans les Primettes. Alors Ballard se dit qu'on n'est pas assez et plus on est de fous plus on rit, donc elle recrute sa meilleure amie Mary Wilson et Paul Williams lui recrute la fameuse Diana Ross dont on reparlera bien évidemment et pif, les futurs Supremes sont créés. À noter que McGlaughan quittera le navire remplacé par une dénommée Barbara Martin. Voilà Théo comment on crée les futurs Supremes.
Et les Primes, Gauthier, juste je reviens sur eux, on n'a jamais entendu parler d'eux.
Eh bien, alors tu n'as jamais entendu parler des Primettes sous ce nom, et tu n'as jamais entendu parler des Primes sous ce nom, sauf si tu es né dans les années 60 à Détroit.
Bon, ça se saurait.
Ou que tu es un grand, grand amateur de musique soul. Par contre, les Primes, tu as dû en entendre parler, et tu nous l'as cité dans l'édito, sous un autre nom, à savoir les Temptations. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Temptations, intéressez-vous à leur discographie, et il y a forcément une chanson que vous connaissez d'eux, je vous la mets, cette chanson. Chanson, c'est My Girls. Et j'étais un petit peu ambitieux, mon cher Théo, pour ces Temptations avec un S, puisque de girl, il n'y en a qu'une seule.
Il n'y en avait qu'une. Et c'est vrai que tu as raison, les Temptations, je les connais en revanche. Je ne connais pas les Primes, mais les Temptations, ouais. Je me souviens, soit dit en passant, d'une chouette reprise de ce morceau par les Stones.
Ouais.
Tu t'en rappelles aussi, ça fait plaisir. Revenons-en à nos Primettes. Comment sont-elles accueillies dans ce milieu qui semble fort masculin à l'aube de la soul?
Pas tip-top, pas grand monde ne veut des Primettes à l'époque. On leur laisse vaguement des participations pour des voix de fond, des chœurs, en gros. Pour d'autres artistes de la Motown, dont un certain Marvin Gaye, qui à l'époque déjà a pas mal percé.
Mm-hmm. Les débuts sont tellement compliqués que le quatuor se transforme rapidement en trio et change même de nom.
Oui, la dénommée Martine quitte le navire et on se retrouve effectivement avec un peu moins de monde et on décide de fonder un nouveau groupe, c'est les mêmes avec un de moins, qui s'appellera là pour la peine le Supremes.
Et donc elle sort un premier album?
Ouais, pas top, Meet the Supremes qui restera pas dans les annales, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ne placera aucun de leurs hits dans les charts. On retiendra peut-être, vous l'écouterez si vous le souhaitez, la chanson I Want a Guy et non I Want Some Guys avec un S, il n'y en a qu'un seul là à nouveau. Tous ces gens sont très non polyamoureux, mais voilà, pas un premier album absolument indispensable. Elles se rattraperont bien avec le deuxième.
Cet album contient d'ailleurs tellement de bons morceaux qu'il leur permettra d'être affublés d'un surnom pour le moins flatteur.
Ouais, pas très sympa les potes de la Motown, puisque la prof Diana Ross, Florence Ballard et Mary Wilson seront surnommés par leurs potes. Ou pas, The Know It Supremes, ce qui n'est pas très sympathique, sous-entendu, vous êtes bien sympathique, mais vous sortez rien de valable. Voilà, bon.
Et puis Gauthier, il n'y a pas que la qualité des chansons qui pêche, il faut également replacer ce premier album dans son contexte.
Oui, les groupes de femmes, il y en avait eu à l'époque, incontestablement, mais les girls band, puisqu'il faut les appeler comme ça, l'opposition des boys band, sont à l'époque sur le déclin, ratiboisés par, comme à peu près tous les styles musicaux de l'époque, par la British Invasion, porté par nos chers Beatles. Et oui, Théo, on est en 64 et les Beatles ont déjà commencé à officier en 62 et ils commencent complètement à mettre les groupes de chanteuses sur la touche. Les Supremes vont s'accrocher et elles auront bien raison.
On se marque une petite pause en s'écoutant un autre morceau numéro 1 justement des charts paru sur cet album, c'est Come See About Me. I'm lonely. Vous êtes bien sur Radio Présence. Après avoir présenté les Suprêmes, il est temps, mon cher Gauthier, de parler de ce second album sorti donc en 64, album qui leur a permis d'exploser. Pour faire un bon album, il faut pas seulement de bons artistes. Les Stones, dont on parlait il y a quelques instants, savent d'ailleurs quelque chose. Il faut également de bons morceaux. Et pour ça, Gauthier, il faut des compositeurs.
Oui, surtout qu'à l'époque, notamment à la Motown, c'est l'usage qu'en fait, on a vraiment deux distinctions entre les artistes interprètes, on va dire, et les compositeurs. Alors, dans leur cas, ça sera Holland Dozier Holland, aka Lamont Dozier et les frères Brian et Eddie Holland, mais ils signaient donc Holland Dozier Holland. Mm-hmm. Alors, ces trois gars qui vont s'essayer la chanson initialement, puis qui vont rapidement découvrir qu'ils sont vachement meilleurs à la composition, donc ils vont arrêter de chanter, et pendant des années, ils vont pondre tube sur tube. Alors pour le Supremes, bien évidemment, mais aussi pour Marvin Gaye, les Four Tops, un autre excellent groupe de l'époque, les Isley Brothers, un autre immense groupe de l'époque, mais de Philadelphie, pas de Détroit, j'en passe et des meilleurs. Et un petit exemple, Théo, de ce que cette bande de joyeux drill peut faire, et particulièrement Brian Holland, avec une chanson d'un groupe que les gens ne connaissent pas forcément, The Marvelettes, mais dont tout le monde connaît la chanson, c'est Please Mr. Postman. Les Marvelettes, vous connaissez pas forcément, mais cette chanson, vous la connaissez, ne serait-ce parce qu'elle a été reprise par les Beatles, je crois, sur leur deuxième album.
Et tu as certainement raison, étant donné ta connaissance légendaire de la discographie des Beatles. Oh bah si, Gauthier.
C'est pas la plus dure à connaître.
Comme souvent, je reviens au Suprême, comme souvent, il faut également sortir du lot. Gauthier.
Oui, et alors les Suprêmes, je rebondis encore une fois sur ta métaphore, Théo, pour la filer. On aime bien chez Therapy Pop filer les métaphores. Comme les Rolling Stones, on va essayer de se démarquer des restes par une attitude. Et les Suprêmes, ça va avoir l'idée de mettre un terme à ce que faisaient les girls bands de l'époque, c'est-à-dire chanter les amours un peu de midinette. Elles vont devenir, elles, plus sensuelles, mais aussi plus tristes, plus profondes, plus réfléchies, et elles vont chanter des histoires d'amour, toujours, parfois, mais de façon plus dramatique, plus réaliste. Liste presque.
Et comme quand on rend une copie, on dit que la présentation compte pour deux points, il en va de même pour les Suprêmes qui vont transformer leur performance scénique même.
Alors elles vont incontestablement les transformer. La chorégraphe de l'époque, le chorégraphe d'ailleurs, Cholly Atkins, va les grimer, leur mettre des perruques, des robes, elles sont très maquillées, etc. Elles sont toutes habillées pareil, un peu comme un boys band en fait, d'une certaine façon, un peu comme les Rolling Stones aussi, ou les Beatles qui venaient tous équipés de la même tenue.
L'uniforme.
Et on leur dira, vas-y, tu montes sur scène, il faut que tu sois prêt à te produire devant des rois et des reines, comprendre qu'il faut vraiment envoyer, tout donner et vraiment mettre une allure scénique. L'idée aussi, c'est de faire en sorte que les Supremes, c'est pas évident à l'époque, mais soient attrayants tout à la fois pour le public noir, qui est habitué peut-être un peu de la soul et de la musique de la Motown, mais aussi pour le public blanc. Et on en avait parlé dans d'autres émissions, mais dans les années 60, il pouvait encore exister beaucoup de différences entre les radios blanches,
clivage,
avec du rock, etc., et la musique noire.
Et puis on le sait, on n'a rien sans rien, mais quand même le hasard fait parfois bien les choses. Et ce fut le cas pour notre trio, puisqu'à la base, les compositions de Dozier...
Holland Dozier
leur étaient pas nécessairement destinées. Je te laisse nous raconter ça, Gauthier.
C'est Lamont Dozier même qui nous le raconte. J'avais d'abord composé une chanson pour les Marvelettes, donc on écoutait tout à l'heure.
Ouais.
En fait, je l'avais composée pour eux parce que Gladys Horton, donc la chanteuse, avait une voix plus basse que celle de Diana Ross. On n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie de la création des personnages de Supremes. On va leur demander, et notamment à Diana Ross, de chanter un peu plus grave, justement, pour amener une tonalité plus grave à leur chanson. Donc, Lamont Dozier, je reviens, compose une chanson pour une autre artiste que Diana Ross. Il m'était jamais venu à l'expérience que les Marvelettes n'aimeraient pas la chanson. Et pourtant, réponse de Gladys Horton le jour où on lui présente la chanson, « Oh chérie, nous ne faisons pas de ces choses-là, c'est la pire chose que j'ai jamais entendue comprendre à l'enregistrement. Lui, il est choqué, il se dégonfle pas, il parcourt la liste des artistes de la Motown en se disant, il y a bien quelqu'un qui va bien vouloir la chanter. Ça tombe bien, à l'époque, il y a les No Hits Suprême qui cherchent désespérément des chansons puisqu'elles enchaînent bouse sur bouse. Et ben, ça tombe bien, Lamont Dozier, il a une chanson, cette chanson, il va la leur donner. Ça restera peut-être l'une des plus grandes chansons du Supremes, vous la connaissez toutes, bien évidemment, c'est la chanson Baby Love.
My heart and leave me sad. Tell me, what did I do wrong to make you stay away so long? 'Cause baby love, my baby love, been missing ya, miss kissing ya. Instead of breaking up, let's do some kissing and making up. Stay, need ya, need ya, baby love, ooh, baby love. Baby love, my baby love, why must we separate, my love?
Ah oui, c'est quand même une sacrée pépite, Baby Love.
Et oui, et à titre indicatif, les Marvelettes n'en voulaient pas, et les Supremes, pas tellement non plus. Nez creux,
ouais, mais bien leur en a pris quand même de poursuivre l'aventure. Le premier single, Where Did Our Love Go, a connu un succès planétaire, et ce malgré le contexte dont on vous parlait.
Oui, de déclin des groupes de filles, c'est quasiment à lui tout seul, lui, qui va les relancer, ces groupes de filles.
Et ouais.
C'est le début d'une longue success story. Les Supremes ont été le groupe qui a donc le plus réussi de la Motown, et le groupe vocal américain qui a réussi à caler 12 singles numéro 1 au Billboard. Au cours des 10 mois suivants, la sortie de l'album, Rose Marie Wilson et Florence Ballard réussiront aussi l'exploit unique d'enchaîner 5 numéro 1 consécutifs. C'est-à-dire qu'en gros, chaque fois qu'elle sort une chanson, c'est elle le numéro 1. Ça règle le problème. Donc, une petite carrière après cet album. Et je l'ai pas dit, mais là aussi, on le dira pour l'album de la semaine prochaine, mais ça reste également considéré comme l'un des plus grands albums de l'histoire de la musique et des années 60 en tout cas.
Ouais, je veux bien le croire.
Il y a que des tubes de toute façon dessus. Alors.
On l'a entendu. Mais comme souvent, Gauthier, la belle histoire a son revers, et celui des Supremes n'est pas joli joli.
Ouais, une fin un peu tragique pour notre bonne Ballard, qui, on le rappellera, était quasiment à l'origine du groupe à elle toute seule, qui a sombré dans l'alcoolisme et qui mourra le 21 février 1976 à l'âge canonique de 32 ans. C'est pas beaucoup.
Non.
Faut dire qu'entre temps, notamment le Supremes, c'était plus le Supremes, mais Diana Ross and the Supremes, on pourrait en parler de cette époque, mais
qui
on va dire
phagocyté le groupe
complet. C'est devenu beaucoup moins un groupe de girls, mais le groupe d'une girl.
Ouais. Mais Gauthier, puisqu'on veut finir sur une note positive, il convient de rappeler que c'est en partie grâce au Supreme que la Motown est devenue ce qu'elle est.
Oui, on en parlait un tout petit peu, mais le Berry Gordy, la personne, l'une des personnes en tout cas à la tête de la Motown, avait comme principal objectif d'enregistrer de la musique noire. La Motown a toujours fait de la musique qualifiée de musique noire, de la soul, etc. Mais en entraînant encore une fois ce public blanc qui était plus attiré par Elvis Presley, par un autre type de musique, et arriver à leur vendre et à vendre en fait à tout le monde la même musique, la soul, etc. Et en fait, si on considère que la Motown est peut-être le plus grand label en la matière, et ben force est de constater que c'est grâce aux Supremes qui va clairement placer la Motown sur la carte des meilleurs labels américains, mais qui va aussi et surtout démocratiser tout un pan de la culture noire américaine et de la musique noire américaine, puisque après elle, et ben, la soul notamment ne sera plus une musique exclusivement de noirs, mais une musique aussi de blancs. Faut dire que les blancs étaient bien cons de s'en priver.
Parce que, ça, on est bien d'accord.
Parce que tu me laisses le choix entre un best-of d'Elvis Presley ou un best-of des Motown, je sais qui je prends.
Oui.
Mais sans hésiter.
On l'écoutera ensemble.
Ouais, avec plaisir.
Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter sur un autre son des Supremes, mais provenant de l'autre album phare du groupe sorti en 66. L'album, c'est The Supremes à Gogo. Et la pépite en question, vous la connaissez tous, c'est You Can't Hurry Love. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour parler d'un chouette album sorti par un ancien Beach Boy. C'est bien entendu Smile de Brian Wilson. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier.
Salut Théo.
À lundi. I need